Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren.
Rien n'est plus étranger à l'Union européenne que la guerre, puisque cette organisation fut conçue pour dépasser les États-nations qui, en quelques décennies, avaient provoqué deux guerres mondiales sur le sol du vieux continent, faut-il le rappeler, et ce qui allait aussi précipiter le déclin de l'Europe. La guerre est donc l'antithèse existentielle de l'Union européenne, selon l'expression de Pierre Ménat, diplomate, ancien conseiller du président Jacques Chirac, ancien ambassadeur, qui était en Roumanie d'ailleurs au moment où Vladimir Poutine accédait au pouvoir. Si on en parle, ce n'est pas un hasard, puisque c'est évidemment la question de la guerre en Ukraine qui attire notre regard et la solution ou les solutions que l'Union européenne ou quelque autre organisation pourrait trouver pour sortir de ce conflit. C'est la question qui nous occupe. Donc l'Union européenne et la guerre, aux éditions L'Harmattan, Pierre Ménat fait une synthèse d'abord du conflit tel que l'on le vit depuis un petit peu plus d'un an, et puis pose les bases aussi de la réflexion qui peut nous animer pour essayer de trouver une issue. Bonjour Pierre Ménat.
Bonjour, merci de votre invitation.
C'est vrai que la dernière fois que vous étiez venu ainsi que l'on s'en faisait la réflexion, c'était au moment de l'assaut du Capitole.
Oui, c'était au moment même, en fait, quelques heures après la fin de l'assaut du Capitole, fin tragique de l'assaut du Capitole, et donc la confirmation par le Congrès de l'élection de Joe Biden. Donc.
Vous en parlez d'ailleurs dans un chapitre, un passage consacré à l'affaiblissement interne des États-Unis, par miné, c'est l'expression que vous employez, miné par les divisions de la société américaine.
Oui, je crois que l'élection de Trump et ensuite son échec, la campagne... n'ont été que des révélateurs de très fortes tensions, je dirais sociétales.
Avec entre conservateurs
côté,
et wokistes.
D'un côté, l'ultra-conservatisme, qui d'ailleurs est toujours là, donc toujours présent, notamment au sein du Parti républicain. Et puis, effectivement, le wokisme, qui lui est présent à la fois dans la société et au sein du Parti démocrate. Donc, oui, c'est un. Et c'est très violent parce que, en fait, nous on en parle ici, on parle de la théorie de la déconstruction, mais chez eux, c'est vraiment existentiel.
C'est à l'américaine, c'est king size.
Avec aussi, si vous voulez, des débats qui sont très dangereux aussi sur la possession d'armes, etc. Donc, et un risque quand même de violence qui n'est jamais démenti.
Et ce qu'on peut souligner, c'est que les libéraux, ce qu'on appelle liberals là-bas, ça correspondrait plutôt à la France insoumise.
Oui, d'ailleurs je vous conseille un film qui porte sur Nixon. Donc, et si vous le regardez en version originale, Nixon, à un moment donné, se fâche, dit « those liberals ». Et en fait, la traduction française, le sous-titre, c'est « ces gauchistes ». Donc, c'est exactement ça.
Donc, il n'y a pas de superposition de termes entre libéral et libéral.
Bah non, pour eux, c'est des libéraux à l'ancienne. C'est-à-dire, c'est le libéralisme politique qui remonte à la Révolution et qui, chez eux, désigne l'extrême gauche, en effet.
Alors, Pierre Ménat, si on commence par les États-Unis, ceci pour se poser la question de savoir si le futur président américain, qui sera peut-être Ron DeSantis, on n'en sait rien, aurait une position différente à l'égard de l'Ukraine que Joe Biden.
Écoutez, en tout cas, c'est l'indication qu'il donne, puisque on est un peu loin encore de l'élection, on est en gros un peu plus qu'à mi-parcours, mais dès le début 2024 vont commencer les primaires. Donc les positions sont en train d'être élaborées et les positionnements se définissent. Et Ron DeSantis, tout récemment, a quand même critiqué, a rejoint plus ou moins les positions de Trump et critiqué la priorité donnée à l'Ukraine. Il est extrêmement probable que sa campagne, si c'est lui, mais je pense que de toute façon, la campagne du candidat républicain probablement prendra beaucoup de distance par rapport à la politique de Joe Biden, dont celui-ci affirme qu'elle est bipartisane. Donc pour le moment, il n'a pas tort, parce que pour le moment, le Congrès a suivi les différentes demandes d'aide. Donc, mais effectivement, avec la campagne, ça pourrait changer, d'autant que il y a quand même un certain nombre d'événements aux États-Unis économiques. Vous avez vu les faillites de banques, les hausses de taux d'intérêt qui peuvent laisser penser que les Américains auront d'autres préoccupations.
Alors ça veut dire, si on commence par les États-Unis, c'est aussi pour dire que peut-être que l'Union européenne aura plus de marge de manœuvre à l'avenir. Comment voyez-vous la chose?
Ah, ça, c'est un vieux débat, donc il faut l'espérer en tout cas. Il faut l'espérer, mais vous savez, on l'avait espéré au moment de Trump. Lorsque la guerre est arrivée, on s'est aperçu qu'il ne s'agit pas du tout de sous-estimer ce qu'a fait l'Union européenne, qui a fait preuve d'unité, qui a adopté des sanctions, qui a apporté une assistance économique et militaire importante. Sur le plan de la défense, elle a montré qu'elle n'était pas prête et que l'OTAN, en revanche, s'était préparée. Alors, est-ce que cette situation, vous avez raison de poser la question, est-ce que cette situation va perdurer? On peut espérer qu'un jour, effectivement, l'Union européenne puisse prendre conscience du fait que ses intérêts avec les États-Unis ne seront pas toujours convergents, que les États-Unis ne seront pas toujours présents et que l'Union européenne elle-même doit adopter sa propre autonomie. Voilà, mais pour l'instant, je ne peux pas, hélas, vous garantir que ce sera le cas.
J'ai une question qui est peut-être incidente par rapport à notre débat. Les fonds de l'Union européenne destinés à la Pologne sont-ils toujours bloqués?
Écoutez, ça c'est une colle.
Je suis désolé,
je ne crois pas qu'ils aient été complètement bloqués. Mais en fait, ce qui est vrai, c'est que le contentieux qui existe entre la Commission et la Pologne n'est pas réglée. Mais je pense qu'on l'a mis un peu en sourdine, parce que la Pologne est un pays, on peut dire, de la ligne de front.
Justement, on aurait pu imaginer que ce conflit était résolu.
Je crois surtout que les blocages de fonds ont été très limités, vous savez. Donc, ce qui n'est pas réglé, c'est le contentieux sur l'état de droit, et notamment le fonctionnement de la justice. Ça, je crois que c'est toujours pas réglé. Les effets concrets, je pense qu'ils sont limités, mais il faut vérifier.
Est-ce que l'Union européenne, justement, n'est pas divisée contre elle-même sur un certain nombre de sujets, divisée entre l'Est et l'Ouest, et divisée sur les valeurs auxquelles certains pays adhèrent et celles auxquelles d'autres pays n'adhèrent pas?
Oui, mais ça ne recouvre pas les clivages qui peuvent exister sur la question de la guerre, puisque, en fait, il y avait deux pays qui était en ligne de mire pour les problèmes de valeurs et d'état de droit, c'était la Pologne et la Hongrie. Ces deux pays n'ont pas la même position du tout, ont des positions même opposées sur la question de la guerre. Et donc, ces clivages qu'on avait décrits juste avant la guerre sont un peu moins aujourd'hui marqués, sachant que la Hongrie, elle, a donné son accord pour l'adoption des sanctions, mais on sait que les dérogations, elles ne les appliquent pas totalement.
Est-ce qu'on peut entrer, il y a un ouvrage qui s'appelle ainsi d'ailleurs, dans la tête de Vladimir Poutine, il y a aussi un autre ouvrage qui connaît un certain succès, Le Mage du Kremlin, où on essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête du président russe aujourd'hui. Est-ce que vous avez essayé de faire cette démarche aussi, Pierre Ménin?
Oui, on peut essayer. Ce qu'on sait, c'est que... Premièrement, il y a deux choses. La première chose, c'est que on a senti monter depuis des années une logomachie assez guerrière et assez hostile à l'Occident chez Poutine, depuis bien longtemps, depuis en fait 2014. Puisque, en fait, quand on regarde ces discours, on s'aperçoit que les menaces sur l'arme nucléaire, par exemple, ont commencé dans des discours de 2018 et 2021. En 2019, il y avait quand même eu l'initiative du président Macron, qui avait non seulement accueilli le président Poutine à Brégançon, mais qui avait engagé une initiative diplomatique avec un certain nombre de chapitres qui avaient été ouverts. Mais les Russes avaient dit oui, ça nous intéresse, mais à condition que vous puissiez convaincre les autres Européens de lever les sanctions. Ensuite, fin 2019, début 2020 en l'occurrence, on est entré dans la période du Covid, qui a fortement marqué Poutine, l'a conduit à s'isoler et probablement à se refermer sur lui-même. Dans cette période, d'ailleurs, il y a eu l'affaire de Biélorussie, donc en 2020, les élections en Biélorussie, qui ont marqué Poutine, puisque il a vu qu'il y avait une très forte contestation chez son allié, donc que celui-ci risquait d'être tout simplement d'être battu. Et là, il a commencé à marquer un très net fléchissement en disant ça, je ne l'accepterai pas. Et ensuite, l'Ukraine, évidemment, est venue après. Donc, on peut dire qu'il s'est isolé et il s'est radicalisé.
Et face à cela, est-ce qu'on s'est adapté? Est-ce qu'on a su prendre la mesure du phénomène? Quelles sont les informations qui remontaient de Russie, par exemple, par les circuits diplomatiques, pour nous dire l'attitude qu'il fallait adopter à l'égard de Vladimir Poutine?
Je pense que, en tout cas, du côté français, on a essayé, puisque cette initiative dont je vous parlais, donc, qui date de l'été 2019, s'est poursuivie. Même en 2020, 2021, elle a continué, avec évidemment un certain nombre de problèmes logistiques, puisque le fait de ne pas avoir de rencontres physiques, si vous voulez, de rencontres en présentiel, comme on dit, change beaucoup les choses en diplomatie. Vous
savez. La seule rencontre, c'était une table de 6 mètres qui les séparait.
Oui. Mais ça, c'était déjà, il était un peu tard. C'était le 7 février 2022, cette rencontre. Mm. Mais pendant 2 ans, il n'y a pas eu de rencontre, comme on dit, en présentiel. Or, en diplomatie, si vous voulez, là, moi, je l'ai vécu, une chose est de transmettre un certain nombre d'informations par des émissaires ou des voies diplomatiques, et puis une autre chose est de la rencontre de deux dirigeants en tête à tête ou de ministres. Voilà, et cette période pendant laquelle les contacts au plus haut niveau ont été interrompus, sauf peut-être un petit peu par téléphone, mais c'est pas pareil, a été, à mon avis, manqué parce que du coup, on a prenant prétexte pour occasion, si vous voulez, de cette absence de contact, eh bien, on a peut-être manqué une période, effectivement. Mmh. Je pense, en tout cas, du côté de l'Union européenne, ça a été le cas.
Sans être trop technique, Pierre Ménard, la profusion des postes européens sur le front de la politique étrangère est un problème, quand même.
Oui, oui.
Il y en a combien?
Écoutez, il y a le président, parce que, oui, ce qu'il faut dire, c'est le traité de Lisbonne qui a changé tout ça. Donc, le fameux traité de Lisbonne, dont on parle pour d'autres raisons. Mais il y a le président du Conseil européen, donc, qui est élu pour 2 ans et demi renouvelable, qui aujourd'hui est Charles Michel. Il y a naturellement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et puis, il y a le haut représentant pour les affaires étrangères, la politique de sécurité, Josep Borrell, qui est en même temps vice-président de la Commission. Donc, c'est très compliqué.
Plus les présidences tournantes.
Plus le chef de la présidence tournante, le chef d'État de la présidence tournante du Conseil, mais qui n'a plus de rôle en tant que tel. Et là, je le dis par rapport à 2008, qui était la précédente présidence française, où là, le président Sarkozy était le président du Conseil européen. Et donc, il est allé à Moscou et en Géorgie très rapidement. Et très honnêtement, on ne peut pas dire qu'il avait un mandat, mais il avait son autorité de président du Conseil européen. Après, on peut juger de façon comme on voudra, si vous voulez, les résultats de sa démarche en Géorgie, mais ce n'est pas une démarche équivalente qui a pu être faite en 2022.
Parce qu'il n'y avait pas ce mandat implicite.
Parce qu'il n'était pas président du Conseil européen. Donc, il était d'abord, premièrement, pour décider de ce voyage à Moscou. Ce n'est pas la même chose qu'il fallait convaincre et en discuter avec les autres. Ce voyage aurait pu avoir lieu plus tôt, parce que les tensions, vous rappelez, dataient quand même de plusieurs mois, et notamment elles s'étaient aiguisées en décembre 2021. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il aurait pu y aller plus tôt. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y allait pas en qualité de président du Conseil européen. Donc, d'ailleurs, en fait, quand on a découvert cette visite, personne n'a dit exactement en quelle qualité il y a. Est-ce que c'était un chef d'État français, ce qui est tout à fait légitime et pertinent, ou est-ce que c'était en tant que chef du pays qui a la présidence? Mais à ce moment-là, il aurait fallu qu'il y ait peut-être aussi le président du Conseil européen. C'est compliqué.
Donc il y a une certaine confusion institutionnelle.
Oui, tout à fait.
À votre avis, il faudrait clarifier ce point-là? Et comment?
C'est un peu compliqué maintenant, parce qu'on ne va pas se relancer dans une
histoire de traité.
Mais peut-être qu'au moment de... Je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas très aimable on va dire, mais peut-être que lorsqu'on désigne le président du Conseil européen, il faut réfléchir à cela. Toutes les personnes qui ont exercé cette fonction, c'est-à-dire M. Van Rompuy, M. Tusk et maintenant M. Michel, sont des personnalités éminemment respectables, mais si vous voulez, n'ont pas l'autorité d'un président, d'un ancien président d'un grand pays. Alors, cela dit, le problème, c'est qu'un certain nombre de pays se méfient au moment de cette désignation, et jusqu'à présent, on a évité de désigner des présidents de grands pays, contrairement à la Commission, où vous avez Mme von der Leyen, qui est allemande, qui est présidente. Donc,
en tout cas, qui a plus de visibilité médiatique. Hein.
Mais pour ce volet, disons, politique étrangère, qui relève plutôt du Conseil européen, mais ce n'est pas le cas. Donc peut-être qu'on peut y réfléchir, mais là, il y a notamment en 2024, toutes ces fonctions reviennent maintenant, seront à nouveau renouvelées. Mmh. Seront renouvelées. Donc il faudra y réfléchir.
Pierre Ménard, est-ce que la question de l'OTAN, de l'extension, l'élargissement de l'OTAN à l'Est était vraiment le nœud du problème, dans la mesure où Vladimir Poutine lui-même ne semblait pas regarder cela comme un obstacle insurmontable, du moins au début de son mandat?
Oui, vous avez raison. Il a mis en avant cet argument donc en 2021, en disant que c'était inacceptable et que l'OTAN, ça fait partie des propositions qu'il a mises sur la table d'ailleurs en fin 2021, dit que l'OTAN revienne à ses frontières, entre guillemets, de 97, donc, c'est-à-dire d'avant la signature du pacte OTAN-Russie et avant le premier élargissement. Or, on sait bien que cet élargissement avait été discuté avec les Russes. Il a été discuté notamment par le président Chirac, qui avait constaté, effectivement, les Américains aussi avaient constaté, une réticence de la Russie. Les Russes, notamment les vieilles dames, les babouchkas, ne veulent pas être exposés à des missiles polonais, ce qui n'est pas le cas, mais c'était la crainte qu'ils avaient. Or, ils ont trouvé un arrangement. Le président Poutine, quand il est arrivé, n'a fait aucune remarque sur ce sujet. Et mieux encore, puisque là, c'était ses voisins proches, au moment de l'entrée des Baltes en 2004, il s'est exprimé, mais il a dit que ce n'était pas une tragédie. Donc il n'en a pas fait une affaire. Alors, il a remis cela sur le tapis plus tard, avec un argument, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir, et ça, là-dessus, si vous voulez, il pose un vrai problème, il faut revoir l'architecture de sécurité en Europe. Et ça, ce sera une des grandes questions de l'éventuelle sortie de crise.
Alors, voilà, justement, s'il y a des pourparlers qui doivent s'ouvrir, on imagine que ça ne peut pas être maintenant. Il y a peut-être les offensives du printemps et de l'été sur le terrain militaire qui seront peut-être capitales. C'est ça qu'on va observer.
Écoutez, il faut être très honnête, personne ne le sait, mais j'écoute les experts militaires, ils parlent de contre-offensives, mais on ne sait pas exactement quand elles auront lieu et où. Un jour ou l'autre, moi mon avis, si vous voulez, un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, peut-être à la fin de l'année, peut-être plus tôt, peut-être plus tard, un jour ou l'autre, on aura une certaine convergence d'un certain nombre de forces ou de pays ou d'ensembles qui se diront maintenant ça ne peut plus continuer. Donc, il faut essayer de trouver un règlement. Il sera très difficile, ce règlement. Même le fait de se mettre à la table de négociation est très difficile compte tenu de l'état d'esprit des deux parties au conflit aujourd'hui. Mais un jour, tôt ou tard, il faudra bien y venir et aborder à ce moment-là les trois grandes questions du règlement. Mais on n'y est pas puisqu'on n'a pas de discussion encore. Mais les trois grandes questions du règlement, c'est naturellement la question territoriale, puisque en fait, la position de Moscou est de dire de toute façon, au minimum, il faut que je garde les quatre oblasts que j'ai annexés et que aujourd'hui ils n'occupent pas totalement. Ça, c'est la première grande question. Alors que l'Ukraine dit « je veux recouvrer tous mes territoires ». La deuxième grande question, ce sera les criminels de guerre, les crimes de guerre. Vous savez que dans les règlements de conflits politiques, depuis quelques décennies, ce volet devient un volet important. Ça a été le cas en Yougoslavie. Donc, là, comment est-ce que ça va marcher? Bon, on peut y revenir. Et puis troisièmement, l'architecture européenne de sécurité, la place de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine sera neutre? Est-ce qu'elle entrera dans l'OTAN? Ce sera aussi une question majeure.
L'Ukraine est-elle définitivement perdue pour les Russes? J'entends l'intégralité du territoire.
Je crois que ce sera très difficile pour les Russes de mener à bien le projet qu'ils avaient en déclenchant cette opération spéciale, c'est-à-dire de contrôler totalement l'Ukraine. Ce sera difficile. À la limite, si vous voulez, ils pouvaient y réussir peut-être très, s'ils avaient une guerre très rapide et qu'ils avaient fait. En fait, leur vrai projet était de mettre à Kiev un gouvernement qui était, on va dire, sous leur influence de la Russie, qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu curieusement dans les déclarations de Prigojine, qui dit « je vais me présenter à l'élection présidentielle en Ukraine ». Donc c'est un petit peu la survivance, mais un petit peu…
Comme l'étaient les premiers présidents ukrainiens, en fait, hein, c'est-à-dire Kouchma
Kravchuk. C'était
des anciens membres du Parti communiste.
Voilà, tout à fait, c'est des anciens hiérarques du Parti communiste de l'Union soviétique, mais… Bon, c'était des gens qui ont géré au mieux. Donc ensuite, il y avait eu déjà Yushchenko qui avait des velléités d'indépendance. Puis on est revenu à Yanukovych. En fait, le problème s'est posé avec Yanukovych, avec le refus de signer l'accord d'association. Mais enfin, pour revenir à la paix, c'est vrai que ce sera très difficile.
Est-ce qu'on peut imaginer une Ukraine qui soit justement une sorte de plateforme un peu centrale entre l'Est et l'Ouest? Comme ça aurait pu être le cas avec un accord de libre-échange, un accord d'association avec l'Union européenne. Et puis, de l'autre côté, c'est une sorte de passerelle, en fait, entre le monde oriental et le monde occidental. Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de statut un peu hybride de cette nature-là?
De toute façon, ce sujet sera au centre des négociations. Donc, il y a eu des négociations déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du conflit, en fait, au mois de mars, il y a un an exactement, il y a eu des négociations sous l'égide de la Turquie. Et sur ce point, il y avait eu un certain nombre de progrès. Donc sur le fait que l'Ukraine était neutre, mais évidemment, si l'Ukraine est neutre, il faut qu'il y ait pour contrepartie des garanties de cette neutralité. Parce que, voyez, n'oublions pas que les mémorandums de Budapest 94 étaient censés protéger l'Ukraine. Donc la Russie s'était engagée à ne pas l'agresser. Or, ça n'a pas été respecté. Donc, il faudra que la neutralité est obtenue. Aujourd'hui, évidemment, pour les Ukrainiens, c'est compliqué d'accepter cela parce que ils vont se dire, au fond, notre vraie garantie, ce serait l'OTAN. Donc, ça va être très compliqué.
On en revient toujours à un peu la quadrature du cercle pour l'instant, Pierre Ménard. On va voir comment les choses, bien sûr, évoluent. Merci pour votre analyse.
Je vous en prie.
Dont on peut retrouver les fondements, les réflexions, les éléments de compréhension dans l'Union européenne et la guerre sur le rapport, en plus, que l'Union européenne entretient avec la guerre et en particulier celle-ci qui se déroule sur son territoire. Merci Pierre Ménard, ancien diplomate, d'avoir été avec nous ce matin, invité grand témoin.